Voici le livre que j'aurais voulu lire à 20 ans, mais que je n'ai pas trouvé. Il est écrit pour les jeunes gens, car il s'adresse principalement à celles et ceux qui n'ont pas encore investi la totalité de leur vie. J'entends par là des personnes qui n'ont pas déjà épuisé leur temps et leurs forces, des personnes qui n'obéissent pas encore à une certaine hygiène de l'âme, exigeant de ne considérer son destin et les circonstances qui le façonnent qu'en se félicitant de la vie menée jusque-là. Elles seront plus à même de se confronter en toute impartialité à des réflexions sortant de l'ordinaire, car elles n'auront pas l'impression d'être jugées pour une période de leur vie de laquelle elles auraient ensuite à répondre. À cette jeunesse n'appartiennent cependant pas que des jeunes et pas tous les jeunes. Bien que je ne croie pas à la devise qui dit qu'on a l'âge que l'on se donne, je dois bien avouer qu'il y a des personnes ayant déjà un certain nombre d'années qui savent faire la part des choses et qui ne fondent pas leur jugement sur leur propre choix de vie, tout comme il existe des jeunes personnes à l'esprit déjà figé par les traditions. En ce sens, j'espère pouvoir également m'adresser à une jeunesse d'âge mûr et laisser de côté certains jeunes déjà trop vieux jeux. Les problèmes de la vie féminine tels qu'ils sont soulevés par le double rôle de l'individu femme, interprété dans un monde d'hommes, ont certes déjà souvent été traités. Mais en général, que partiellement ici ou là, sans jamais s'inscrire dans un panorama plus global. J'ai essayé de remonter jusqu'à la source de ces problèmes et par là même de comprendre leurs liens et imbrications. J'espère avoir évité un point de vue surplombant qui n'aurait eu d'autre effet que celui de me faire passer pour une idéaliste. Il s'agissait bien plus pour moi de formuler des questions claires et de faire en sorte que le rythme du texte s'accorde avec le pouls de la vie quotidienne. Les réponses aux questions concernant la vie féminine sont généralement données par des hommes qui adoptent à cette occasion le même ton que s'ils vantaient une cure miraculeuse à des gardiens de troupeaux, ou que s'ils devaient remettre un âne sur le droit chemin. Ces réponses seront ici critiquées. Que l'on essaye un instant de se représenter toute l'étendue de leur signification, et l'on aura peine à contenir son indignation. Je n'ai pas cherché à dissimuler la mienne, car il me semble que les femmes ont trop souvent fait trop bonne figure face à de mauvais joueurs, trop souvent afin de ne pas entendre des insultes pourtant trop claires pour qu'on puisse se permettre de les ignorer. Il est pour moi nécessaire d'exprimer cette frustration afin d'ébranler la foi en des procédés et solutions prétendument évidents. Nombreuses sont celles et ceux qui trouveront que dans cet exposé des conditions de la vie féminine, les hommes en prennent trop pour leur grade. Je me hâte donc d'ajouter que ce ne sont pas les mauvais exemples qui manquent, loin de là, et que je n'avais lors de l'écriture pas d'homme particulier en tête, mais bien l'appareil de la domination masculine dans sa totalité. Aussi compréhensif et bien intentionné que puissent être certains de ses représentants, ce dernier fonctionne comme la plupart des appareils de domination. Avec la rigidité d'un mécanisme et dans le seul intérêt de son pouvoir. Ce phénomène est d'autant plus écœurant qu'il est peu probable pour une femme de réussir à échapper aux rouages de cette machinerie et aux mythes qui l'entretient. Qui critique cet appareil de domination et son fonctionnement veut donc l'impossible et s'adresse aux autres sympathisants de l'impossible. Mais dès lors que chaque jour nous apporte la preuve que l'impossible peut être rendu possible, cette critique n'est pas vaine. La nature et la fonction de cette machinerie sont déterminées par les circonstances les plus diverses et leur variabilité rend l'appareil de domination moins stable qu'il n'y paraît. Ce livre a été rédigé pour les jeunes femmes qui veulent l'impossible et pour les quelques hommes qui possèdent suffisamment de curiosité d'esprit pour s'intéresser à comment la domination masculine est perçue par l'autre bord. Ce travail n'est par contre certainement pas écrit pour celles et ceux qui prennent un malin plaisir à chercher des prétextes d'indignation à leur sainte colère ou à leur colère tout court. Pour conclure cette introduction à la discussion des questions essentielles de la vie féminine, un mot sur la question plus dérisoire des conventions. J'ai toujours pris soin de laisser la première place aux femmes dans la syntaxe de mon texte, en écrivant par exemple « femme et homme » au lieu d'homme et femme, une arabesque à laquelle la plupart des féministes renoncent avec grâce. Non sans raison d'ailleurs. Dans les œuvres où l'on critique au nom de l'égalité des sexes l'autorité de l'un, cela ne rime effectivement pas à grand-chose de simplement mettre l'autre en tête. On n'obtient ainsi rien d'autre que la perpétuation symbolique du geste condamné, bien que dans le sens inverse. Mais y renoncer est tout aussi peu justifiable. Car dans les œuvres qui s'érigent de la première à la dernière lettre contre la domination masculine, faire malgré tout la révérence conventionnelle de la rétrocession grammaticale paraît d'autant plus absurde. Si aucune de ces deux formes n'est meilleure que l'autre, alors aucune n'est pire. Dès lors, pourquoi ne donnerait-on pas, pour varier un peu, la priorité aux femmes dans la syntaxe? Les lectrices apprécieront peut-être cette petite bouffée d'air dans l'espace de la domination masculine, pièce qui sent un peu trop le renfermer.